la présence des forces rwandaises de considérer comme négative l'FDLR et le Nkéramouin avait été la première cause, je crois, de la tension, parce que le Rwanda soupçonnait le gouvernement de Kinshasa d'être de mèche avec ces forces-là. Et puis Kinshasa n'a pas compris que le Rwanda soit souvent l'instigateur des mouvements, des rébellions armées ou mouvements insurrectionnels à l'est de la République, notamment dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu. Je pense que ce sont en fait ces deux histoires qui ont déconstruit la confiance qui devrait exister entre le Rwanda et en fait la RDC. Il faut savoir au préalable que le gouvernement Kabila, père, avait triomphé de Mobutu grâce à l'accompagnement ou à l'assistance du Rwanda et de l'Ouganda et d'un certain nombre de pays de région.
Mais comment expliquer l'instabilité à cette frontière dont la capitale avec la RDC est le Kivu?
Depuis le triomphe des guerres qu'on appelait des guerres du Kivu, en commençant par l'entrée de l'ancienne armée rwandaise à RDC, cette région a été en fait rendue vulnérable. Les pays voisins de la RDC, notamment l'Ouganda et le Rwanda, qui ont vu leur rébellion interne s'installer en territoire congolais, profitant non seulement de la porosité des frontières, mais aussi de l'absence d'administration, ont intégré la région du Kivu dans ce qu'on appelle l'axe de crise, des grands lacs, parce que le Rwanda, le Burundi, et même l'Ouganda ont une longue tradition en fait d'instabilité politique et la proximité qu'ils ont avec le province du Kivu ont donné lieu à une sorte d'exportation de l'instabilité de ces pays dans le Kivu pendant que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda travaillent à se redresser. C'est cela qui explique que le Kivu soit devenu un ventre mou et que l'absence d'administration permette en fait une circulation libre de toutes sortes de mouvements et comme en plus on trouve dans le Kivu toutes les richesses, tous les minéraux qui permettent d'alimenter ces guerres-là. Alors vous comprenez qu'il en soit en fait ainsi.